Chapitre 6. Don Martin ne s'apercevait pas du changement favorable qui s'était opéré chez Paul. Il ne pouvait apprécier l'influence que l'étude, la bonne direction de son oncle et surtout son amour pour Clémentia avaient exercé sur lui. Les livres avaient enrichi son esprit, les conseils de l'abbé avaient rectifié son jugement et formé son goût. Mais son amour pour Clémentia, en épurant ses sentiments, les avait élevés et leur avait donné cette exquise délicatesse que beaucoup d'hommes envient, mais à laquelle bien peu atteignent. Don Martin n'en exerçait pas moins sa verve satirique contre le pauvre Paul. C'était devenu pour lui une sorte d'allègement nécessaire dont personne n'était à l'abri, sauf sa femme, son frère et sa belle-fille. Mais ce qui le plus souvent excitait son humeur caustique, c'était l'arrivée de ces vieilles mendiantes qui venaient l'assaillir sans relâche et dont les propos insolents occasionnaient souvent des dialogues d'une originalité rare. L'une de ces mendiantes était la tante Latrane, dont nous avons parlé au chapitre précédent, que Don Martin, tout en lui prodiguant ses secours, ne pouvait supporter à cause de son insolence et de son ingratitude. Cette femme était petite, frêle et décharnée. Ses yeux étaient larmoyants, son regard arrogant et sa bouche enfoncée rendaient encore plus sensible la proéminence de son nez excessivement pointu. L'aversion de Don Martin datait de l'époque où l'un des neveux de cette femme, garçon fort mauvaise tête, querelleur et vicieux, ayant tiré au sort, sa tante vint trouver Don Martin pour le prier de le faire libérer. Ils eurent à cette occasion ce dialogue. « Seigneur, » dit-elle, en arrivant toute larmoyante et grimaçant la douleur, « mon pauvre Bernardo est soldat !»« Que l'on fasse sonner les cloches, » dit Don Martin. « Ce n'est pas être compatissant, Seigneur, envers le prochain. Le pauvre garçon demande seulement à monsieur de lui prêter de quoi acheter un homme et il s'engage à rendre exactement cet argent. » aussitôt qu'il aura gagné à la loterie. Belle hypothèque, on voit bien que ce garçon chasse de race. Lui prêter, merci, ce serait un prêt dans le genre de celui que je vous fis pour ensemencer votre champ de fèves et dont j'attends encore le remboursement. Celui qui n'a rien ne paie ni ne doit. Tiens. Oui, monsieur, là où il n'y a rien, le roi perd ses droits. Excepté celui de faire des soldats. Ainsi, votre neveu, qui n'a, comme l'on dit, ni feu ni lieu, qui est un vagabond, un fainéant, un batteur de pavés, n'a rien de mieux à faire que de prendre le fusil. Monsieur veut plaisanter, mais il a bon cœur, et il fera bien pour mon neveu ce qu'il a fait pour le fils de mon voisin Gilles. Et quelle ressemblance peut-il y avoir entre vous et le père Gilles, ce fidèle domestique attaché à ma maison depuis la chute d'Adam? « Allez, ma bonne, chacune de vos maladies, vraies ou fausses, me coûte déjà assez cher. Quant à ça, que monsieur se rassure. Pour le moment, je me porte à merveille. Il n'en est pas ainsi de mon pauvre Bernardo, qui est malade de chagrin. » « Tant mieux. Quand ton fils est un bandit, mieux le vaut malade et au lit. » « Pourtant, si monsieur le voyait, il est si faible, si maigre, si délicat. » « Lui, délicat, il est fort comme un bœuf. Il est trop bien élevé, trop instruit pour marcher dans la boue. Instruit, c'est-à-dire que c'est un âne. Un âne, mon Bernardo? Mais c'est un philosophe, il a étudié la morale, il a appris le latin. Il vaudrait mieux qu'il sût bien manier la bêche et la charrue. J'ai voulu qu'il étudie parce que science passe richesse. Aussi, mon Bernardo est un charmant garçon. Un charmant garçon, c'est-à-dire que lorsqu'il n'est pas en prison, on le cherche pour l'y mettre. L'année dernière, il a été traduit devant les tribunaux à la suite d'une rixe et cette année pour coups et blessures. Par suite de faux témoignages, seigneur. Comment? Je l'ai vu moi-même prendre en flagrant délit. C'était autrefois, seigneur. Mais pourquoi rappeler ces anciennes peccadilles? Chacun a ses défauts, les uns plus, les autres moins. J'en ai parlé pour vous dire que votre charmant garçon fera bien de gagner au large le plus tôt possible. Dieu lui vienne en aide et à vous aussi. Mais, Seigneur, c'est mon unique soutien.
Votre soutien, malheureuse, il est la corde qui vous étrangle. Laissez-le partir à la grâce de Dieu.
Monsieur ne fera donc rien pour mon neveu ?
Je lui souhaiterai un bon voyage.
Seigneur, pour l'amour de Dieu qui récompense !
Les bonnes œuvres.
Pour la Sainte Vierge !
Don Martin se mit à chantonner d'une voix grave en imitant à la fin le tambour.
C'en est fait, il faut être soldat et marcher au bataillon où l'on réveille la mollesse avec du pain de munitions. Rentre en plan, plan, un rude caporal te rendra souple comme un gant.
À quoi vous sert-il donc d'être riche ?
Dit la tante Latrane à piquer au vif.
La peste soit de la vieille insolente, dit Don Martin, courroucé. Croyez-vous qu'il me faille employer l'héritage de mes pères à entretenir dans la paresse tous les vauriens du village ? Dites à votre neveu philosophe d'étudier la discipline et d'abandonner les lettres. Et vous, laissez-moi en repos ou nous nous brouillerons.
Peu importe de perdre ami qui ne donne et couteau qui ne coupe,
murmura entre ses dents la mendiante.
Qu'est-ce que vous murmurez là ? Demanda Don Martin.
Rien, seigneur, mais si mon neveu vient à mourir ou si on le tue, je ne voudrais pas être à la place de votre seigneurie. Car, pouvant éviter un malheur, vous ne l'aurez point voulu. Celui qui fait passer un mauvais quart d'heure aux autres ne doit pas en attendre de bon pour lui-même. »
Et la tante Latrane s'éloigna, redoublant ses menaces.
« Eh bien, lui dit Don Martin, furieux, tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise. Ainsi, gare au jour où vous aurez épuisé ma patience, car, foi de Martin, si vous ne retenez pas mieux votre langue, sans faire attention que vous êtes femme, je vous jette à la tête la première chose qui me tombera sous la main. Tenez-vous pour averti. »
On comprendra facilement, d'après cette scène, que Clémentia, dont les pauvres réclamaient souvent l'intercession auprès de Don Martin, ne fut pas très bien accueillie par son beau-père, lorsque, matin, elle vint lui dire «
Mon père, la tante Latrana voudrait vous parler.
Dites-lui que je suis sourd.
Vous ne l'êtes jamais pour écouter les pauvres.
Mais je le suis toujours pour entendre cette vieille et tous les siens.
Que vous a-t-elle fait, mon père ?
Ce qu'elle m'a fait, l'insolente demande toujours et ne tient compte de rien. Si l'on ne fait pas immédiatement ce qu'elle a l'air d'exiger comme un droit, elle devient une furie. Parce que je n'ai pas voulu libérer son vaurien de neveu du service, elle m'a agoni de sottise. Le proverbe a raison. Faites du bien 100 fois, manquez une occasion d'en faire, et tout sera oublié.
Mais mon père, la malheureuse met une telle insistance.
Et toi aussi, ma petite perle, n'est-ce pas ? Allons, fais entrer.
Clémentia alla chercher la mendiante, qui parut un instant après devant Don Martin, en pleurnichant comme toujours.
Qu'y a-t-il de nouveau, puissant fond ? Lui demanda Don Martin. Et depuis quand vous mettez-vous sous la protection de ma fille ? Il semble qu'avec votre effronterie, vous n'avez guère besoin d'un tuteur.
Ma commère, la tante Amachouka, qui est fort malade, m'envoie demander à monsieur de quoi faire du bouillon gras, car...
Vous demandez pour la tante Machouka, cela ne m'étonne pas, qui se ressemble s'assemble.
« Monsieur n'est pas indulgent aujourd'hui. Ma commère vit bien sagement. C'est une femme édifiante. »«
Pour moi, dit Don Martin, c'est une de ces femmes qui ont la croix sur la poitrine et le diable dans le cœur. Mais enfin, l'aumône n'est pas seulement pour les bons. Voilà une piécette. Et toi, petite perle, fais-lui donner du lard et des pois chiches. Maintenant, partez et ne revenez pas que je ne vous rappelle. Entendez-vous ?»
« Oui, seigneur, et Dieu vous le rende !»
Et la vieille s'éloigna plus vite que son âge ne semblait le permettre. Le lendemain, on la vit reparaître.
« Ne vous ai-je pas dit de ne revenir que lorsque je vous appellerai ?»
s'écria Don Martin, impatienté.
« Oui, seigneur, oui, mais c'est que ma commère va plus mal. »
« Le bouillon gras en est peut-être la cause. »«
Non, seigneur !» C'est plutôt le médecin qui lui a ordonné une potion, et ce juif d'apothicaire ne veut pas me la donner si je ne lui apporte 6 réaux.
Voilà vos 6 réaux, je vous les donne pour vous faire partir.
Le lendemain, nouvelle apparition. Encore ! S'écria Don Martin. Quel vampire !
Seigneur, dit la tante Latrane sans se laisser intimider, ma commère va être administrée.
Cela regarde le curé.
Mais il faut des cierges pour la chapelle.
Voilà pour les cierges et en route.
Mais le lendemain, la mère Latrane apparut encore devant Don Martin, stupéfait, avec un air lugubre.
Vous voulez donc en finir avec ma patience, caramba !
Seigneur, dit la mendiante avec une voix plaintive, ma commère est morte.
Alléluia, requiescat in pace. Eh bien, à quel propos venez-vous donc?
Pour que monsieur ait la charité de payer son enterrement.
Aussi? Allons, je le veux bien. Puissiez-vous me donner bientôt l'occasion d'exercer envers vous la même œuvre de miséricorde. Et maintenant, bonsoir, jusqu'à la vallée de Josaphat.
Vain espoir. Le lendemain, la mère Latrane était là.
Qu'est-ce que c'est ? S'écria Don Martin abasourdi. Toujours vous ? Saperlotte, vous êtes pire qu'une double fièvre tierce.
Seigneur Don Martin, je venais vous dire que ma commère.
Votre commère ? Ne m'avez-vous pas dit qu'elle était morte ?
Oui, Seigneur, mais.
N'ai-je pas payé son enterrement ?
Oui, Seigneur, mais.
Il n'y a pas de mais, passe-moi la porte.
J'y vais, Seigneur, mais.
Mais quoi ? Parlez donc !
Elle est ressuscitée !
Clémence et Paul ne purent s'empêcher de rire aux éclats, mais il n'en fut pas ainsi de Don Martin, qui devint furieux.
Et vous venez me demander de quoi acheter l'agneau de la résurrection ? Écoutez, vieille insolente, ceci passe à la plaisanterie. Croyez-vous que l'on se moque indéfiniment des riches qui vous donnent du pain, vous consolent et vous protègent ? Foi de Martine, si j'avais ma force d'autrefois, je vous aurais jeté dans la rue la tête la première, et si mon neveu n'était pas si mou, si insouciant, il aurait déjà fait.
La tante Latrane, qui, comme nous savons, ne se laissait jamais intimider, lui dit
« Oui, Seigneur, elle est ressuscitée et ça ne pouvait manquer d'arriver. Le médecin a dit que c'était un cyclope,
une syncope. »
Allez au diable, vous, le médecin et le cyclope.
Et il a ordonné de lui mettre une douzaine de sangsues.
Plutôt une douzaine de serpents.
Autrement, elle mourra et tout d'une pièce.
Eh bien, son enterrement est payé d'avance.
Monsieur la laissera donc mourir?
Et pourquoi pas? Elle s'est ressuscitée si à propos.
C'est un manque de charité, Seigneur.
Qu'est-ce à dire? Langue de vipère, moi, sans charité, lorsque je pourvois d'avance à tous ses besoins?
Si monsieur ne me donne pas quelque chose pour les sangsues, il aura sur la conscience la mort de cette pauvre femme.
Don Martin, à bout de patience et aveuglé par la colère, saisit le premier objet qu'il trouva sous sa main. C'était un livre et il le lança violemment à la tête de la mendiante. Paul, ayant vu ce mouvement, s'avança vivement entre son oncle et la tante Latrane pour parer le coup, et le livre, qui était épais et solidement relié, frappa son front et lui fit une blessure assez forte pour que le sang coulât. La vieille avait disparu.
« Paul ! » s'écria Clémence en se précipitant vers son cousin pour arrêter le sang avec son mouchoir.
« Voilà, Martine ! » dit à son mari Donia Brigide avec son flegme habituel. « Voilà comme tu te laisses emporter par ton caractère. »
« Malheureuse colère !» s'écria Don Martin consterné.
« Mais aussi, mon pauvre Paul, pourquoi te fourrer entre nous deux ?»«
Puisque le mal est fait, mieux vaut que j'en sois la victime, mon oncle, » dit en souriant Paul, vivement touché des soins que lui prodiguait sa cousine.
« Qu'on aille chercher le médecin !» criait Don Martin.
« Tu souffres, mon enfant.
Qu'on court après cette vieille sorcière et qu'on l'assomme. Et vous, tas de badauds, » ajouta-t-il en s'adressant au domestique qui était accouru. « Vous n'êtes pas encore de retour avec le chirurgien. Et toi, Nigo, pourquoi venir te mettre entre le marteau et l'enclume ?»«
Pour garantir la tante Latrane, » dit Clémence en pleurant.
« Ne pleure pas, ma fille, je t'en prie, » lui dit Don Martin.
Tu me fais de la peine et tu augmenteras le mal de Paul. »
« Non, mon oncle, s'écria Paul, ces larmes me font du bien. Rassurez-vous, ce ne sera rien. »
« Clémentia, ajouta-t-il à demi-voix, merci. Mes souffrances sont amplement payées par l'intérêt que tu me témoignes. »
Et, succombant à sa faiblesse, Paul laissa tomber sa tête sur l'épaule du domestique qui le soutenait. À ce moment, Dona Brigida arriva, portant dans une petite boîte de la charpie, des bandages et des compresses soigneusement pliées.
« Hélas, ma mère !» lui dit Clémentia effrayée. « Il vient de s'évanouir. Mon Dieu, s'il allait mourir !»«
Ne t'afflige pas ainsi, mon enfant, lui dit sa belle-mère. Cet évanouissement est une suite de la perte de son sang. Sa blessure n'est ni profonde ni dangereuse. »
Le docteur, qui arriva sur ses entrefaites, confirma les paroles de Madame de Guevard et se mit à panser la blessure. Un moment après, Paul reprenait connaissance, mais lorsqu'il vit Clémentia, le visage inondé de larmes, à genoux devant lui et lui faisant sentir son mouchoir imbibé de vinaigre, il referma les yeux, craignant de voir s'évanouir cette apparition ravissante.
« Maintenant, dit le docteur, il faut au malade du repos et une saignée. »
On emporta Paul dans sa chambre. Dona Brigida et Juan l'y précédèrent pour préparer son lit. Don Martin et Clémentia demeurèrent seuls.
« Je me laisserai couper la main, dit-il, pourvu que le même couteau servît à couper le cou à cette vieille sorcière deux fois maudite.
« Calmez-vous, mon père, reprit Clémentia. Le docteur assure qu'il n'y a rien de grave. »
« Qui l'aurait jamais pensé, poursuivait Don Martin. Cette tête de Paul, que je croyais dure comme le rocher de Gibraltar.
Vous étiez dans l'erreur, mon père. Paul n'a pas la tête dure, il a l'esprit vif et le cœur excellent.
Écoute, ma fille, m'est avis que cette blessure vient de faire remporter à Paul une belle victoire dans ton esprit.
Sans doute, répondit Clémentia naïvement. Ce qu'il a fait est une noble et généreuse action.
Allons donc. Ce qu'il a fait est tout uniment une bêtise. Lorsque, pour sauver ta vie, il exposa la sienne en s'interposant entre toi et le taureau, Paul fit un acte de courage digne d'un gentilhomme. Mais aujourd'hui, en se posant comme le défenseur de cette vieille insolente, il a joué un rôle digne de Don Quichotte.
Don Martin était un de ces hommes de routine, tellement attachés à leurs idées qu'ils ne sauraient en démordre. Aussi, malgré toutes les raisons qu'il avait pour modifier son opinion sur Paul, il n'en persista pas moins dans son premier jugement à son égard. Clémentia, avant de se retirer chez elle, alla savoir des nouvelles de Paul.
« Je suis bien heureux de te revoir, lui dit celui-ci. Je voulais te faire dire que j'ai songé à envoyer des secours à la pauvre femme à laquelle tu t'intéressais.
« Paul, je l'avoue, je ne pensais plus à elle, mais à toi, à tes souffrances. Cette idée troublera mon sommeil. »
« Alors, Clémentia, repose et dors en paix. Ma nuit sera douce et tranquille. »
Clémentia, sans savoir pourquoi, sortit de la chambre de Paul, triste et préoccupée.